Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée au 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. 9 millions d'habitants, dont un peu plus de 6,5 millions de juifs, un pays dont en 1948 la CIA américaine estimait qu'il ne pourrait pas durer plus de 2 ans et qui voit aujourd'hui son PIB par habitant atteindre 37 292 $, 3,3% de croissance économique en 2017, un chômage de la population active d'à peine 4,3%, l'indice de développement humain de l'ONU qui, outre la richesse économique, prend aussi en compte des facteurs comme l'éducation et la santé, classe l'État juif parmi les 20 premiers pays du monde, devant la France, la Belgique ou l'Italie. Israël figure aussi parmi les plus inégalitaires après les États-Unis. Membre de l'OCDE, le club des pays développés depuis 2010, regard sur le chemin parcouru alors qu'en 1948, rares étaient ceux qui pariaient sur l'avenir. Nos invités, Jean-Paul Chagnolot, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, co-auteur avec Pierre Blanc de Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour.
Alain Diekhoff, directeur du CERI, auteur de plusieurs ouvrages dans le conflit israélo-palestinien chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de « Antisionisme est-il égal à antisémitisme » aux éditions Libertalia et co-directeur avec Bertrand Badie de l'État du Monde. Bonjour.
Bonjour.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou déclarait récemment « Nous sommes en train de transformer Israël en puissance mondiale ». Quels sont les secrets de ce qu'il faut bien appeler une réussite, réussite d'un pays au rayonnement qui reste et demeure sans commune mesure avec les dimensions de son territoire? Qu'est-ce qui a fait que l'État d'Israël en soit là où il en est aujourd'hui sur le plan ne serait-ce que économique? Alain Diekhoff.
Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est vrai que vous avez bien fait de rappeler que, à l'origine, c'est vrai que l'avenir d'Israël en 48 était loin d'être garanti à bien des égards. Pour tout un tas de raisons, la situation militaire, même si Israël a gagné la première guerre israélo-arabe, il n'empêche que le pays était encore très très jeune, très peu peuplé, 500 000 habitants quand même à cette époque-là, et puis devant très rapidement absorber des masses comme très importantes de migrants qui venaient des pays arabes, en particulier l'Irak et le Yémen à ce moment-là, un peu plus tard d'autres horizons, et aussi les rescapés des candidats de personnes déplacées, c'est-à-dire les juifs qui avaient survécu à l'Holocauste ou qui avaient quitté des pays où ils ne voulaient plus résider, comme la Pologne. Donc, une population extrêmement démunie qui est arrivée. Donc, c'est vrai que l'État était encore assez faible, il faut bien le dire. Et donc, en effet, malgré cela, disons 70 ans après, c'est vrai que globalement, on peut dire, d'un point de vue en tous les cas interne, le pays se porte vraiment bien, c'est vrai, économiquement, vous l'avez dit, aussi sur la confiance en soi que les Israéliens ont d'eux-mêmes, qui est grande, contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur. Et les raisons, bon, évidemment, elles sont multiples et je prétends pas peut-être les donner toutes, mais il y a certainement la force de conviction du leadership au départ dans les années 50 et 60 qui a énormément pesé, c'est-à-dire c'était des gens volontaristes qui ont cru à ce qu'ils faisaient en dépit de tous les obstacles. Et Ben Gourion en est évidemment l'archétype, ce petit homme obstiné qui était convaincu de remplir une mission, ça c'est indéniable. Et je dirais que lui, évidemment, tous les autres qui l'ont accompagné ont beaucoup contribué à cela. Et ça a évidemment été un élément important. Bon, Israël a su aussi, du fait de son isolement, toujours pouvoir, et il savait que c'était une condition du succès, compter sur des appuis extérieurs. Pendant longtemps, ça a été la France. On l'oublie trop souvent. Dans les années, jusqu'en 1967, ça a été la France. Ensuite, ça a été les États-Unis. Et ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que cet appui extérieur a été capital pour permettre à l'État lui-même de subsister à une époque où il était totalement isolé au Moyen-Orient. On a même du mal à se rendre compte aujourd'hui de cette situation, mais qui était vraiment d'un isolement absolument total dans la région. Et j'ajouterais que même si l'immigration de masse importante de juifs dans les années 50 et 60 a été au départ un problème parce qu'il a fallu les intégrer, il y avait pas assez de maisons et il y a eu des camps de transit pendant des années pour eux, sur le long terme, le bilan de l'immigration, y compris d'un point de vue économique, est absolument positif. C'est-à-dire que c'est vrai, et on le voit encore avec l'immigration des années 90 des Juifs qui viennent des pays de l'ex-Union soviétique, cette immigration, in fine, a donné un boom à l'économie. Parce qu'évidemment, si vous recevez ce qui a été le cas, 900 000 immigrants, il faut construire des maisons, il y a tout un tas de choses à faire. Et in fine, ça aide l'économie, ça, il y a aucun doute. Et puis bon, Israël a aussi su s'adapter avec tout ce qui est high-tech, etc. Et on sait que c'est un des pays leaders dans le monde. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a une capacité d'innovation qui est réelle et qui a aidé le pays et a permis à ce qu'il se trouve dans la situation qui est la sienne aujourd'hui.
Alors c'est une présentation d'Alain Diakhoff particulièrement développée et complète. Je retiens apport bénéfique de l'immigration. Et puis, en toile de fond, nécessité d'exister à tout prix. C'est ce qui a été le moteur de la réussite de l'État d'Israël, Dominique Vidal.
Je crois, Marie-France, que cet anniversaire incite à réfléchir sur force et faiblesse. Indiscutablement, la force est là. La force militaire, d'abord, ça ne fait pas de doute, c'est une des armées les plus fortes et les plus pointues, les plus aiguës du monde. Force économique, les chiffres sont impressionnants. Voilà un pays qui est aujourd'hui à plus de 40 000 dollars par tête d'habitant de PIB. C'est quand même impressionnant vu d'où il venait. Un pays qui est passé de 1 à 9 millions d'habitants. Quel autre pays a réussi à intégrer autant de d'immigrants et d'immigrants très divers, comme Alain l'a dit? Un chômage parmi les plus bas de l'OCDE. Enfin, je veux dire, si on aligne les chiffres, ils sont impressionnants. La force, c'est aussi la force de l'alliance avec les États-Unis, qui est quand même aujourd'hui la base sur laquelle le pays et le gouvernement de ce pays peut agir. Et puis, il y a la faiblesse. Et la faiblesse, je crois qu'elle est à la fois intérieure et extérieure. Intérieure parce qu'il y a un revers de la médaille de ces chiffres macroéconomiques extraordinaires, c'est quand même le record du monde, ou quasiment, de la pauvreté, du monde occidental. 22% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les inégalités, bon, ça a un peu diminué, mais on est 8e rang de l'OCDE pour les inégalités. Et contrairement à ce que pensent certains, c'est pas seulement les Arabes israéliens, c'est aussi les Juifs orientaux, c'est aussi les ultra-orthodoxes, c'est aussi les survivants de la Shoah. Un quart des survivants de la Shoah sous le seuil de pauvreté. Donc on a une espèce de mosaïque qui se défait. Si ce n'était la guerre, si ce n'était le conflit, on a l'impression que le risque existerait, que l'ethnocratie ashkénaze, c'est-à-dire juive occidentale, comme dit Yoren Yiftachel, ait du mal à maintenir son pouvoir, ses privilèges, face à toute cette population, et notamment la population palestinienne d'Israël. Et la preuve de cette faiblesse, c'est la loi qui vient d'être votée.
Parlez-nous de cette loi.
Une nouvelle loi fondamentale qui, au lieu de définir l'État d'Israël comme État juif et démocratique, bon, ce qui posait problème est quelque chose d'un oxymoron, parce que si la majorité devenait arabe, comment faire pour rester démocratique ou pour rester juif? Enfin, on connaît le théorème, là. Mais aujourd'hui, c'est État-nation du peuple juif.
Et donc la les choses sont clarifiées.
Et la loi, c'est la première lecture, il y en a encore deux. Mais la loi précise, seul le peuple juif a droit à l'autodétermination. Et j'ajoute, pour que tout le monde comprenne, que l'arabe ne sera plus une langue officielle, ce qu'il était depuis 1948. C'est-à-dire, on est dans la violation absolue de la déclaration d'indépendance et des principes d'égalité qui avaient été fixés par la déclaration d'indépendance lue par David Ben-Gourion le 14 mai 1948. Et puis, il y a l'autre faiblesse. Alors, bien sûr, il y a la force militaire, j'ai dit, mais la faiblesse, c'est que ce pays ne s'est pas intégré dans son environnement, qui est arabo-musulman. C'est le fait. On n'y est pour rien. Je veux dire, c'est Herzl qui a décidé qu'il fallait faire un foyer national juif en Palestine, et la Palestine, c'est dans un environnement arabo-musulman. Donc là, on est dans une vraie faiblesse. C'est-à-dire, à terme, comment ce pays peut, comme il se profile, s'intégrer sans faire la paix avec ses voisins, commencer par ses voisins palestiniens. Et je termine sur un fait qui, pour moi, est très important, parce qu'il est significatif. Les démographes israéliens, avec lesquels j'ai pu parler ces dernières années, ont une formule, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, ils parlent du « million missing ». Ils exagèrent, à mon avis, c'est pas
le
un million.
Le million manquant.
Le million qui manque, c'est pas un million, c'est quelques centaines de milliers. C'est-à-dire des citoyens israéliens qui ne vivent plus en Israël. Est-ce qu'ils font du tourisme? Est-ce qu'ils font des études? Est-ce qu'ils font du business? Est-ce qu'ils ont rompu avec Israël? Le fait est que sur 9 millions de citoyens et sur 6,5 millions de citoyens juifs, il y en a plusieurs centaines de milliers qui ont quitté. Par exemple, à Berlin, il y a 100 000 Israéliens aujourd'hui, à Berlin.
Qui ont quitté de façon récente. On ne parle pas là de la diaspora.
Non, la diaspora n'a pas quitté. La diaspora, elle vit là où elle vit depuis.
C'est la diaspora israélienne.
Voilà,
en fait.
C'est une diaspora, voilà, absolument israélienne. Donc, si vous voulez, je termine pour pas être trop long. On a à la fois des forces indiscutables et des faiblesses. Et à mon avis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la faiblesse n'est pas seulement liée à la question du rapport avec les Palestiniens et avec le monde arabe. Elle est aussi intrinsèque. Elle est dans la difficulté à être fidèle à ce qu'était une certaine idéal utopique socialiste du sionisme, comme il avait été pensé à l'époque, qui était quand même un pays d'égalité, un pays où Ben Gourion se promenait dans son kibboutz avec des sandales. Enfin, j'exagère à peine. On n'est plus du tout là. On est dans, sans doute, le meilleur élève de la classe néolibérale.
Alors, Jean-Paul Chagnolot, je me tourne vers vous et je reprends ce que j'ai lu dans l'ouvrage que vous avez publié avec Pierre Blanc, Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie. Vous parlez d'une image d'Israël très contrastée. Pour les uns, un État irréprochable grâce auquel le peuple juif dispose enfin de son toit politique, une démocratie qui perdure dans un environnement instable et dangereux. Alors, démocratie, on a vu avec Dominique Vidal que les choses étaient évoluaient dans les textes. Et pour les autres, c'est avant tout un État qui occupe depuis 50 ans un territoire qui n'est pas le sien et sur lequel il a développé une colonisation systématique au mépris du droit international. Où est-ce que vous vous situez vous-même dans ce contraste, Jean-Paul Chagnolot?
Je crois que c'est le terme de contraste me paraît le plus important, effectivement, dans tout ce qu'on vient de dire. Alors, il y aurait beaucoup de choses à évoquer, mais moi, la première chose qui me frappe, c'est la question de l'État. Dominique et Alain ont évoqué l'État d'Israël, sa construction. J'ajouterais peut-être la profondeur de la vision. C'est-à-dire que la question de l'État, elle a été pensée des décennies avant la création. On se souvient tous d'avoir lu Théodore Herzl qui, dans son journal en 1897, disait « J'ai créé l'État juif, dans 5 ans peut-être, on va rire, mais dans 50 ans, ça sera une évidence. » Et je crois que cette question de la profondeur historique me paraît essentielle. Et pendant toute la période du mandat qu'on n'a pas évoqué, il y a vraiment une pensée de construction de l'État, avec une immigration à cette époque, et une immigration quand même de couches sociales qui ont la capacité de penser un développement économique et qui savent ce que c'est qu'un État. Et de tout dans une région, justement, où il y a absence d'État. Parce que quand on prend les années 20, 30, 40 et même au-delà, la notion même d'État est absolument impensée. Et pour certains, encore aujourd'hui, peut-être impensable. Je veux dire par là que si on définit l'État comme un rapport entre une population, une adéquation entre un pouvoir politique et un territoire avec sa population, on a un principe de territorialisation qui était totalement inconnu à l'époque de l'Empire ottoman. Or, la Palestine, c'est évidemment d'abord dans l'Empire ottoman qu'elle s'est construite. Et donc, je crois que c'est vraiment important. Et si on prend l'époque du mandat, moi qui est une période qui me fascine, il y avait déjà à cette époque, sur tous les plan, sur le plan de l'économie, sur le plan de la fabrication, pour faire des choses très concrètes, de l'électricité, par exemple. Le Yishuv était en capacité de, sans faire de jeu de mots, alors que c'est très symbolique, de s'éclairer, quoi. Alors que du côté de la société arabe, il n'y avait pas tout cela. Il y avait un retard technologique tout à fait considérable. Sur le plan militaire, il y avait une préparation dont on a vu les conséquences au moment des affrontements terribles des années 36-38, et dont on verra aussi la concrétisation au moment de la première guerre israélo-arabe en 1948. Donc, je crois vraiment que la question de l'enracinement de l'État, alors dans des conditions évidemment qui sont extrêmement contradictoires, parce que c'est un État qui est quand même porté largement par le colonialisme ou par la colonisation, parce que s'il n'y avait pas eu la Grande-Bretagne en 1922 dans le mandat britannique, enfin c'est un mandat britannique, mais on voit bien là cet enracinement, et ça me paraît très important, et je crois que c'est une base ou même des fondements, pour pas dire des fondations. Alors après il y a tous les éléments qui ont été évoqués, c'est-à-dire effectivement il y a cette capacité d'alliance tous azimuts, et on a évoqué la France, on a évoqué les États-Unis, mais il faudrait commencer par évoquer l'Union soviétique au moment même de la création, sans la Tchécoslovaquie, quel aurait été le destin, et donc l'Union soviétique, quel aurait été le destin de la guerre de 48, j'en sais rien. Donc cette capacité d'avoir des alliés tous azimuts, avec une grande force. Et je crois aussi, comme ça a été dit, que l'immigration, qui a été un problème, est devenue une grande force. S'il n'y avait pas eu l'immigration de l'ex-Union soviétique dans les années 90, la situation aujourd'hui serait radicalement différente. Il y a environ 1 million de juifs qui sont arrivés de l'URSS. Vous imaginez, le million manquant, ça serait 2 millions manquants, enfin, dont une serait une véritable réalité, donc on aurait une question démographique. Alors ça, c'est les aspects forts, enracinés, dans un environnement qui a toujours été structurellement instable. et qu'il l'est toujours. On parle des effondrements de l'État, mais moi je dirais qu'il n'y a jamais eu de capacité à construire des véritables États, ni en Syrie, ni en Irak, ni au Liban. Et si, paradoxalement, le Liban fonctionne, je dirais que c'est presque parce que c'est une société sans État. Bien entendu, ma formule est excessive, mais c'est un peu ça quand même. Ce sont des communautés qui essaient de s'auto-organiser. Maintenant, tout le bouquin que vous évoquez, là, Israël face à Israël, c'est ça, c'est les contrastes. Alors, j'en prendrai qu'un seul, parce que je reprendrai celui qu'a évoqué Dominique tout à l'heure, mais on en évoquera d'autres. C'est sur la question des droits. C'est très intéressant, la question des droits. En Israël, et si on se fonde sur la déclaration d'indépendance, nous sommes dans un système démocratique, tel qu'il est énoncé, et la loi qui vient d'être votée... Enfin, à rebours, mais c'est pas nouveau, parce qu'il y a eu toute une évolution très très ancienne là-dessus. Or, vous avez une contradiction, mais qui est tout à fait compréhensible à certains égards, mais qui pose des problèmes énormes, entre le fait qu'on peut imaginer qu'il y ait des droits politiques en Israël pour tout le monde, y compris donc pour les Arabes et pour les Palestiniens d'Israël, mais quand ces droits commencent à toucher la question de la souveraineté politique... Eh bien, cette fois-ci, l'inégalité, elle est structurelle. Et maintenant, elle devient constitutionnelle. C'est-à-dire que, entre les droits politiques qu'on accepte pour tous et le moment où ces droits pourraient conduire, en fait, à une pleine souveraineté, c'est-à-dire à décider globalement de ce que serait le destin de l'ensemble du peuple israélien, eh bien là, non, il y a une rupture. Et là, cette loi va... expressément affirmé, imposé finalement, ce qui était en gestation depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, cette loi a été très critiquée par pas mal de députés qui estimaient justement, sans parler évidemment de la liste arabe unie, qui est évidemment tout à fait contre, hein, ils estiment que c'est une loi raciste carrément, Ayman Odeh parle d'une loi raciste, même le président d'Israël était sur une ligne arc-boutée sur la déclaration d'indépendance. Donc on a ce contraste entre, oui, on parle de droit, mais... Les droits, ils ont une limite, une sorte de ligne rouge qui est finalement l'idée que la souveraineté n'appartient qu'au peuple juif. Et on pourrait comme ça prendre chacun des contrastes possibles. Celui-là, il est fondamental, mais par exemple, la sécurité est un autre contraste. Puissance militaire et en même temps puissance occupante, et par conséquent, l'occupation est une forme de, comment dirais-je, de matrice structurelle générant de l'insécurité. Donc on veut de la sécurité d'un côté, et en même temps on produit de l'insécurité par son propre comportement. Enfin bref, donc je pense vraiment, c'est à la fois cette profondeur, je termine là-dessus, cette profondeur historique, qui est vraiment un atout majeur, et des contrastes multiples dans beaucoup de domaines.
Dominique Vidal, je sais que vous souhaitez réagir.
Non, pas réagir, je suis rebondir. Plutôt d'accord avec l'analyse que fait Jean-Paul. Je pense aussi, comme lui, j'ai pas mal écrit là-dessus, que on ne peut pas comprendre Israël sans revenir sur la période mandataire, parce que c'est dans la période mandataire que se crée l'État d'Israël en réalité, et l'idée selon laquelle Israël serait né de la Shoah est une idée absurde. Bien sûr que le génocide a accouché de l'État d'Israël par sa violence et par sa barbarie, mais il s'est créé dans les années
qui ont précédé.
Ce que je voulais dire, c'est autre chose. C'est que ce qui compte quand même, quand on parle d'anniversaire, c'est la tendance. Et je trouve personnellement que ce 70e anniversaire se présente sous des auspices extrêmement inquiétants. D'abord, on le sent, la montée vers la guerre. Est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce qu'elle n'aura pas lieu? On va peut-être y revenir, mais on sent quand même, dans les jours qui viennent de s'écouler, quelque chose qui ressemble à une montée vers la guerre. Deuxièmement, il y a une radicalisation de la politique palestinienne des dirigeants israéliens qui est très inquiétante, puisqu'on passe de la colonisation qui continue, s'accélère, à l'idée d'annexion, avec une loi qui a été votée, d'autres qui sont en préparation, qui sont même sur le bureau de la Knesset. Évidemment que l'annexion, ça veut dire qu'il n'y a plus de perspective de deux États, mais un seul. Et quel État? Est-ce que les Palestiniens annexés auront ou non le droit de vote dans cet État? Troisième élément, on en a parlé, c'est la série de lois liberticides qui ont été votées dans les 5 dernières années par la Knesset. Je ne veux pas les développer, puisqu'il y en a une quinzaine, ce serait trop long, mais je veux juste prendre un exemple qui est peu connu et stupéfiant. Il y a une loi qui permet à 90 députés sur 120 d'exclure les 30 autres. Et d'ailleurs, elle est en vigueur, puisque une députée arabe-israélienne, en l'occurrence Hanan Zoabi, est menacée d'être expulsée de la Knesset. Donc là, vous voyez, on est quand même dans quelque chose de très inquiétant, et il y a une série de lois comme ça. Et dernier point, je reviens sur la loi. Il faut bien comprendre que la loi fondamentale, telle qu'elle a été votée en première lecture par la Knesset, est une loi qui légalise un système, excusez-moi le terme, d'apartheid. Puisqu'on légalise le fait qu'il y a une population qui a droit à l'autodétermination dans cet État, et l'autre, c'est écrit noir sur blanc, n'a pas de droit à l'autodétermination dans cet État.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Dominique Vidal, Alain Diekhoff et Jean-Paul Chagnolleau dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur Israël à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Nous retrouvons nos invités, Jean-Paul Chagnolot, président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient, co-auteur avec Pierre Blanc de Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie aux éditions Autrement, Alain Diekhoff, directeur du CERI et auteur de plusieurs ouvrages dans le conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin, Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de Antisionisme est-il illégal à antisémitisme aux éditions Libertalia. Alain Diekhoff, vous souhaitiez réagir à ce qu'évoquait Dominique Vidal dans la fin de la première partie de l'émission qui parlait d'une situation d'apartheid en Israël en faisant référence à cette loi fondamentale qui a été votée tout récemment déclarant Israël comme un état-nation du peuple juif et la disparition de l'arabe comme langue officielle.
Je ne parlais pas de la situation en Israël comme d'apartheid. Je ne dirais certainement pas ça. Je parlais du contenu de la loi fondamentale telle qu'elle est discutée par la Knesset actuellement.
Je pense que cette loi fondamentale, le problème essentiel, c'est que quelque part, elle radicalise une position, une définition d'Israël comme état-nation du peuple juif, en limitant les droits des minorités, en particulier la minorité arabe. Et en effet, la question de la langue, à mon avis, en est évidemment un indice. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quelque part, elle concrétise finalement quelque chose qui est dans l'essence même, dans la dualité structurelle de l'État d'Israël. L'État d'Israël, dès la déclaration d'indépendance, il se définit comme l'État du peuple juif, ça c'est clair. En même temps, il se définit aussi comme une démocratie et reconnaît les droits politiques et autres aux citoyens qui ne seraient pas juifs, et on sait que 20% de la population, en tous les cas aujourd'hui, ne l'est pas. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que il y a peut-être clairement une tentative de la part d'une partie de la majorité actuelle de clarifier quelque part cette contradiction en allant dans cette définition qui cherche un peu à réduire cette contradiction, mais il faut bien voir, encore une fois, que cette dualité, elle a été là dès le départ. Mmh. Et la deuxième petite chose que je voudrais dire, c'est que il faut juste faire un peu attention quand on évoque toutes les lois déposées à la Knesset, parce que il y a quand même une grande différence entre le volume de projets de lois déposés et les lois véritablement adoptées in fine. Il y a beaucoup de lois qui finissent dans les tiroirs, il y a beaucoup de lois qui sont retoquées par la Cour suprême qui joue quand même et continue quand même de jouer un rôle de protection des droits fondamentaux qu'il faut quand même rappeler. Et ça, je crois que c'est quand même aussi important d'évoquer ça.
Alors, on sent tout de même qu'à l'occasion de ce 70e anniversaire, il y a une volonté de poser peut-être des choses de façon plus claire. Jean-Paul Chagnolot.
En fait, c'est un débat complexe et un débat fond en Israël même. Je rappelle que le président de l'État était opposé au principe de cette loi et beaucoup d'autres députés à la Knesset, et que l'enjeu, c'est tout de même l'interprétation de la déclaration d'indépendance qui, elle, envisageait un État juif et des citoyens, c'est-à-dire l'israélisation et non pas la judaïsation. Et c'est toute la contradiction qui perdure depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est que le droit, finalement? Le droit n'est que l'expression d'un rapport de force politique. Il se trouve qu'aujourd'hui, le rapport de force politique, il est en faveur de partis qui dominent la Knesset et qui sont des partis nationalistes et aussi religieux. Il ne faut jamais oublier ce que c'est que la fabrication du droit. Il pourrait en être autrement. Et si un texte comme ça avait été débattu, par exemple, dans les années 90, je fais l'hypothèse, parce que la majorité est différente, qu'on n'aurait pas eu une loi de cette nature et qu'on aurait interprété la déclaration d'indépendance autrement. Donc je crois qu'il faut vraiment bien voir que ce n'était pas inéluctable, que c'est vraiment lié à des rapports de force politique. Bon, et j'ajouterai un point, c'est que dans le contexte actuel, qui est quand même le contexte où on va avoir tout ce qui va se passer au mois de mai avec Jérusalem comme capitale Israël reconnue unilatéralement par Donald Trump, avec et puis les projets qui consistent à vouloir élargir Jérusalem en annexant des territoires palestiniens, ça voudra dire qu'il y aura d'autres personnes, je dis personnes pour prendre un ton un peu neutre, palestiniens, ceux-là vont aussi être relégués à la minorité, et donc si on continue comme ça, on est vraiment dans une judaïsation qui s'éloigne de ce qu'on pourrait avoir comme israélisation, ce qui n'est pas la même chose, quoi. L'égalité de tous les citoyens, même si à un moment donné, comme je l'évoquais tout à l'heure, on bute sur cette contradiction, mais qui existe depuis même l'époque du mandat. Ben-Gourion, dans les années 20, en parlait. On lui demandait, mais combien faut-il de juifs? Il dit, jamais je répondrai à une telle question. C'est ça qu'il disait à ce moment-là. Mais il fallait qu'il soit une majorité. Et donc, la contradiction entre les droits et la souveraineté, on y touche complètement ici. La souveraineté appartient au peuple juif. C'est ça que ça veut dire. Mais à ce moment-là, ça fragilise profondément une démocratie qui, par définition, pense que c'est l'ensemble du peuple qui est souverain et pas une partie de ce peuple. C'est une question majeure, existentielle même.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, ce débat illustre ce que j'ai tenté de montrer dans mon petit bouquin, à savoir que l'antisionisme n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Parce que voilà une des questions qui est au cœur des polémiques sur le sionisme depuis le début. Est-ce que les juifs doivent avoir un droit à l'autodétermination opposable et opposé au droit à l'autodétermination des autres habitants autochtones de la Palestine, à savoir les Palestiniens? Donc on est bien dans des débats de fond, dans des débats de caractère idéologique, mais aussi de caractère historique, extrêmement...
Et donc juridique.
Traduction juridique. Deuxièmement, je crois que... on sous-estime en France la radicalisation de l'équipe au pouvoir en Israël. C'est quand même une équipe de droite et d'extrême droite avec des ultra-orthodoxes venant s'ajouter, mais il n'y a plus d'autres composantes. C'est-à-dire, on est devant une équipe qui va très loin. Et ce que je voudrais dire, il y a, moi j'ai sur ma feuille devant moi, là, 12 lois votées par la Knesset. Elles sont plus horribles les unes que les autres, d'un point de vue strictement démocratique. C'est des lois qu'on n'imagine pas dans d'autres pays. La loi sur les ONG, la loi qui interdit la commémoration de la Nakba, de l'expulsion des Palestiniens. Mais il y a une loi Netanyahou, je l'appelle, parce qu'elle interdit à la police d'informer le procureur général de l'existence de motifs d'inculpation contre le Premier ministre. Mais comment on peut inventer des choses pareilles ?
Là, sur des affaires de corruption.
Si vous voulez, on est dans une radicalisation dont le point aigu pour moi n'est pas ce qui a été discuté jusqu'ici, mais les alliances que cette équipe est prête à passer. Benjamin Netanyahou flirte de manière ouverte avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui ne se gêne pas, quelques jours avant de l'accueillir, pour faire l'apologie du régent Horthy, le collaborateur de l'Allemagne nazie pendant la guerre, qui a résisté pendant un temps à l'idée du génocide, mais qui, à la fin, a laissé Eichmann et ses hommes déporter et exterminer 400 000 juifs hongrois. Vous avez des liens avec les dirigeants polonais. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais enfin, ils viennent de voter une loi qui interdit, paraît-il, de dire camp de concentration polonais. Et ils ont tout à fait raison. On ne doit pas parler de camp d'extermination polonais. C'était des camps d'extermination nazis. Mais la loi ne dit pas que ça. En fait, elle interdit de parler de la collaboration polonaise avec les nazis. Et d'après les meilleurs historiens polonais, on considère que 200 à 300 000 juifs polonais ont été tués, non pas par les nazis, mais par des polonais. Donc voyez, ce type d'alliance, si on y ajoute les forces d'extrême droite en Europe de l'Ouest, le copinage avec toutes ces forces, à l'exception du Front National, on est quand même dans quelque chose qui inquiète durablement sur la nature de cette équipe.
Les alliances nationalistes de Jean-Paul Chagnolot. Et alors, très rapidement, après ça, je voudrais qu'on avance un tout petit peu sur les questions. Jean-Paul Chagnolot.
Je voulais simplement dire que c'est en fait toute la réflexion sur le sionisme qui est aussi en question et sur les différents courants du sionisme. Aujourd'hui, manifestement, c'est un courant qui l'emporte sur d'autres, alors qu'il faut regarder les choses comme ça. Et que si j'étais un peu naïf, ce qui m'arrive souvent d'être, je dirais que le sionisme a été, pendant toute une période, et notamment celle que j'évoquais, c'est-à-dire l'époque du mandat et même au début, c'était quand même une idéologie qui était tournée vers l'avenir, qui pensait l'avenir. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le sionisme pense, ou plutôt s'arc-boute sur le passé, et que cette inversion du rapport à l'histoire me paraît dramatique, surtout avec les contrastes que ça génère, puisque tout de même Israël est présenté à juste titre comme étant très fort économiquement, et en même temps il a le dos tourné vers le passé, quand on parle de colonisation, quand on a le rapport avec la Cisjordanie, avec Jérusalem-Est, on est dans le passé. Donc cette inversion à l'histoire que promet aujourd'hui ce courant du sionisme me paraît extrêmement préoccupant pour l'avenir même d'Israël.
Alors, pour ce qui est des alliances nouvelles qu'évoquait Dominique Vidal, il y a aussi les alliances de toujours, je pense, aux États-Unis. Et c'est vrai qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, les liens se sont encore davantage rapprochés. On peut juste rappeler que ce soutien constant et massif des États-Unis, aide financière de 3 milliards de dollars par an à Israël, livraison matérielle militaire sophistiquée, le renseignement. Un chiffre à propos de la puissance militaire israélienne, le budget public affecté à l'achat d'armement, c'est 6% du produit intérieur brut. C'est l'un des budgets les plus importants au monde en pourcentage du PIB. Alain Diekhoff, vous évoquiez la confiance de l'État d'Israël. On se pose la question de savoir si cet État juif qui fait montre de beaucoup d'assurance est vraiment un État confiant.
Je pense qu'il faut distinguer deux choses déjà. J'aimerais peut-être dire juste un mot de la confiance des Israéliens en eux-mêmes, si je puis dire. Et là, on a un chiffre qui est sorti récemment. Vous savez peut-être qu'il y a un rapport qui est fait depuis maintenant quelques années qui s'appelle le World Happiness Report, le rapport sur le bonheur mondial. Il y a 156 pays du monde qui sont dans ce rapport. Israël est à la 11e place.
C'est plutôt bien.
Très bien, oui. C'est-à-dire qu'avant eux, en fait, vous regardez, vous voyez pour l'essentiel les pays du Nord, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, il n'y a aucun autre pays européen avant Israël. La France, par exemple, est 23e. Et on a d'autres enquêtes qui montrent que, est-ce que si vous aviez la possibilité, vous quitteriez Israël? 95% non. C'est non. Ils sont très contents d'être là, malgré des contraintes parfois fortes. Hein. Par exemple, pour les juifs israéliens, ça veut dire quand même faire 3 ans de service militaire entre 18 et 21 ans. Donc apparemment, c'est pas rédhibitoire pour le fait qu'ils veuillent y rester.
Plus les réserves.
Plus les réserves. Donc je dirais, ça c'est quand même un élément qui répond à votre question. Alors l'État lui-même, je dirais que, évidemment, ça dépend de ceux qui le dirigent, mais je pense qu'aujourd'hui, le climat général est plutôt un climat de relative confiance en ce sens-là, sur un point bien précis. Si on évoque Israël dans sa région, je dirais que du point de vue de la situation stratégique de l'État d'Israël dans la région aujourd'hui, le gros point noir, si je puis dire, pour eux, c'est évidemment, ils le répètent à satiété, la question iranienne, le risque que l'Iran détienne à terme l'arme nucléaire, la politique aussi un peu expansionniste de l'Iran qu'on voit en Syrie, qu'on voit au Yémen, avec les différents relais qu'il peut avoir. Donc ça les inquiète. Mais si vous laissez ça de côté, globalement, d'un point de vue, alors vraiment, je dirais objectif, et c'est un peu la perception que aussi bien les militaires que les civils ont en Israël, c'est que leur situation stratégique est plutôt bonne de ce point de vue-là, parce que ils ont face, si j'accepte encore une fois l'Iran, un monde arabe qui est assez affaibli, qui est divisé, avec lequel il y a maintenant, on le sait, alors soit des alliances très claires, parce qu'il y a un traité de paix avec l'Égypte depuis très longtemps, avec la Jordanie, ou avec d'autres avec lesquels il n'y a pas de traité, mais avec lesquels il y a finalement une alliance objective, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes qui ont le même ennemi, à savoir l'Iran. Donc, de ce point de vue-là, ils sont plutôt dans une situation relativement confiante, à l'exception, encore une fois, de la question de l'Iran.
Alors, Dominique Vidal qui parlait de non-intégration d'Israël dans son environnement régional, Jean-Paul Chagnolo, on voit, et Alain Diakov l'évoquait à l'instant, la relation avec les pays arabes, elle a beaucoup évolué en 70 ans, et on a aujourd'hui des États arabes qui sont de plus en plus résignés à l'existence d'Israël.
Ils sont résignés, j'allais dire, peut-être depuis plus longtemps qu'on ne le pense, en réalité. Maintenant, ça apparaît plus net. Mais je voudrais revenir sur un point qui est cette confiance. Alors, la confiance, c'est un terme très polysémique. Faut savoir d'où on le prend. Si on joue sur les mots, la confiance est très positif, mais il peut y avoir des excès de confiance. Et le rapport de force aujourd'hui est tel que ça donne aussi l'illusion que tout peut se régler par la force. Et ça, c'est à mon avis extrêmement grave pour les Israéliens, mais pour les Palestiniens, dont il faut quand même parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une séquence historique où un affrontement armé entre Israël et puis l'Iran en Syrie seulement, ou l'Iran tout simplement, c'est d'une complexité inouïe, n'est pas exclu, parce qu'il y a cette espèce de certitude. Et la certitude, c'est quelquefois très dangereux en relation internationale, que de toute façon, tout peut se régler par la force. Et c'est vrai que si on regarde les paramètres militaires, c'est une puissance nucléaire, Israël, depuis fort longtemps. Sur le plan conventionnel, elle a tout l'arsenal possible, de manière extrêmement développée, en plus avec une production autonome qui fait qu'elle ne dépend pas de l'étranger sur beaucoup de sujets. Mais l'illusion que la force gère tout est extrêmement dangereuse. Ce que je veux dire par là, c'est que la vraie confiance, c'est celle qui permet à un moment donné de traduire un rapport de force dans une configuration politique donnée par le droit. Alain vient de citer le traité de paix avec l'Égypte, le traité de paix avec la Jordanie. Si on veut que, pour reprendre ce que disait Dominique tout à l'heure, que Israël s'intègre, ça sera par le droit, par des traités de paix, et non pas par la guerre. Or, aujourd'hui, il est bien clair que c'est plutôt vers la guerre qu'on se dirige, une fois encore. Donc, cette espèce du jazz de la force me paraît extrêmement grave, parce que c'est, à un moment donné, forcément très contre-productif, historiquement parlant.
Alors, ces risques de guerre, vous les partagez, Dominique Vidal, Alain Diakov?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un moment de vertige qui saisit cette direction israélienne. Ils ont, si je peux dire les choses de manière simple, un carré d'as. Premier élément du carré d'as, Donald Trump. Jamais on a eu un président américain aussi prêt à aller très loin avec les Israéliens. Deuxième élément du carré de l'as, Mohamed Ben Salman,
décidé à l'alliance avec Israël et les États-Unis contre l'Iran. Ça, c'est jamais vu. C'est quand même un élément majeur. Troisième élément du carré d'as, c'est la division persistante entre Fatah et Hamas qui empêche tout développement d'initiatives positives qui permettraient de calmer un peu le jeu. Et quatrième élément du carré d'as, c'est le chaos régional qui permet de marginaliser la question palestinienne. Donc tout ça amène Benjamin Netanyahou et ses alliés rivaux, parce que c'est aussi des rivaux, il ne faut pas l'oublier, à une espèce d'escalade. Moi, je suis très inquiet qu'une nouvelle opération contre l'Iran en Syrie finisse par déboucher sur une opération contre l'Iran tout court, celui-ci pouvant éventuellement exercer des représailles ou par le biais du Hezbollah. Et à ce moment-là, honnêtement, je ne sais pas ce qui resterait de l'indice du bonheur. J'ajoute un mot, si vous me permettez, et je termine là-dessus. Il faut aussi mesurer les conséquences de tout ça sur l'image d'Israël. On nous a parlé des versets du Coran récemment. Mais honnêtement, ce qui me paraît tourneboulé des têtes, c'est surtout le spectacle de Gaza. Quoi qu'on en pense, encore une fois, on peut discuter, mais qu'on voit des snipers tirer des milliers de balles réelles, blesser 1500 personnes en l'espace de moins d'un mois, il faut bien mesurer quel effet radical ça peut avoir sur des têtes sensibles à ce type de situation. Surtout quand, par ailleurs, un certain nombre d'intellectuels viennent nous dire qu'Israël a raison à Gaza.
Alain Diakhoff.
Moi, je pense que Jean-Paul a très justement mis le doigt sur, en effet, aussi les limites de la confiance. Ça, je pense que c'est en effet très important, parce que un excès de confiance peut conduire à ce qu'on appelle, on emprunte le terme au grec, l'hubris, c'est-à-dire en effet un sentiment un peu d'exaltation, que tout est possible. Et c'est vrai que, si on fait un petit parallèle historique, le parallèle historique qui me vient vraiment en tête et qui a porté, de ce point de vue-là, tort à Israël à l'époque, c'est la période des années, début des années 70. Parce qu'après la guerre des six jours, c'est vrai que Israël a eu très peur avant la guerre des six jours et ensuite a eu cet excès de confiance en disant, bon, bah, finalement, nous sommes les plus forts, ils avaient gagné des masses énormes de territoires, en particulier avec le Sinaï, évidemment. Et donc, ils ont dit, bon, bah, finalement, c'est plus la peine de faire aucune concession, comme Diane le disait, le roi Hussein de Jordanie va nous appeler et puis on va faire la paix. Sauf que Hussein de Jordanie n'a jamais appelé, donc il ne s'est jamais rien passé. Donc il y a eu un excès de confiance et cet excès de confiance a conduit à l'impréparation en 73, c'est-à-dire ils n'ont pas vu venir le fait que justement du fait de l'humiliation, sa date en particulier, aller faire la guerre, c'était le seul moyen pour lui de s'en sortir. Et ça, je pense qu'en effet, c'est certainement un risque qui existe régulièrement, je dirais de façon récurrente un peu chez les dirigeants israéliens, quels qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, puisqu'à l'époque c'était une équipe de gauche, à l'époque Golda Meir, c'est que l'excès de confiance peut conduire à cette hubris et conduire à faire des fautes. Et peut conduire, dans des effets non anticipés d'ailleurs, parfois aussi, il faut le dire, à la guerre. C'est-à-dire que la guerre n'est pas toujours le résultat d'une décision, mais c'est un engrenage un peu fatal. On ne prend pas en compte les indices qui permettraient d'arrêter encore la chose tant qu'elle est possible, et on va vers la guerre. C'est vrai que ce risque, il faut pas le sous-estimer, encore moins quand on a un leader comme Benjamin Netanyahu, qui est un peu acculé pour des raisons intérieures, avec les affaires de corruption à autres, peut-être un peu aller dans une sorte de fuite en avant.
Alors, Jean-Paul Chenelot, en une seconde, en guise de conclusion.
Non, je crois simplement qu'aujourd'hui, cet engrenage est plus que probable. Et lorsqu'ensuite cet engrenage produit ses effets, c'est-à-dire une guerre, eh bien, il y a une deuxième séquence qui s'ouvre, qui sont les conséquences de cette guerre. Et donc, nous sommes dans cette séquence-là. Et un exemple très concret, je termine là-dessus, la conférence de presse qui vient d'être organisée par Benjamin Netanyahou pour dire que l'Iran ne respecte pas ses obligations en termes nucléaires est un exemple d'un moment qui peut conduire à un engrenage. Et ça, c'est extrêmement préoccupant.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Jean-Paul Chenelot, je rappelle que vous êtes président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-Orient et co-auteur avec Pierre Blanc de Israël face à Israël, promesses et dérives d'une utopie aux éditions Autrement. Alain Diakhoff, directeur du CERI et auteur de Le conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin. Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de Antisionisme est-il égal à antisémitisme aux éditions Libertalia à l'occasion du 70e anniversaire de la création d'Israël. Je signale aussi la création de l'État d'Israël d'André Chouraki et Israël 70 ans, 7 clés pour comprendre de Martine Gozlan. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, l'émission sera consacrée à l'Irak dans la perspective des élections législatives.